vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 76. Le baptême perpétuel de Catherine Keith à Pfaffenhoffen. Ah, chers amis, bonjour. Savez-vous qu'il y a 5 F dans Pfaffenhoffen? Mais en fait, ce n'est pas notre sujet, qui est parfois le jeu du hasard, mais c'est un petit clin d'œil à Marivaux. Pourtant, nous allons y aller à Pfaffenhoffen. Et vous avez noté que dans la phrase « nous allons y aller », il y a, dans cette très courte phrase, deux fois le même verbe « aller ». Nous allons y aller. Allez, EZ, on y va. Si vous écrivez Pfaffenhoffen en belles lettres gothiques avec une plume sergent-major, vous faites de votre écriture une image, une belle image. Et aujourd'hui, à Pfaffenhoffen, nous allons au musée de l'image populaire et nous accueillons Catherine Keith qui va nous raconter comment, souvent, c'est pas hasard, qu'on retrouve au fond d'un tiroir ou dans un cadre accroché au grenier, ces images qui ont raconté la vie au XIXe siècle, comme par exemple les Kettelbriefs, les lettres de baptême, avec des broderies en papier tout autour. Bonjour Catherine Keith.
Bonjour Monsieur Perrin.
Comment nomme-t-on ce travail de dentelle de papier?
Alors, ce travail de dentelle de papier se pratique avec un canif, d'où le nom de canivet. C-A-N-I-V-E-T.
Et alors souvent, ce sont des images pieuses?
Oui. Puisque les premiers canivets ont été découpés, en fait, dans des couvents. Puisque les sœurs avaient beaucoup de temps et qu'elles découpaient de véritables dentelles de papier. Mais à côté de ces œuvres très artistiques, qui étaient centrées en général avec une image de saint, ou de sainte au milieu de la dentelle de papier, il y avait une tradition aussi locale avec des gens qui étaient paysans dans la journée ou maréchal ferrant dans la journée et qui étaient de véritables artistes et qui découpaient de manière beaucoup plus simple, plus élémentaire, un cercle ou bien des petits triangles, des formes géométriques, mais qui n'étaient pas aussi travaillées que celles des sœurs.
Mais alors, je me souviens, quand on était gamin à l'école, on prenait une feuille, on la pliait en 8, oui, avec des ciseaux, et puis on coupait un petit rond ou une pointe, on l'ouvrait, et puis on avait le motif répété.
Mais c'est exactement ce que faisaient les artistes populaires. Ils prenaient une feuille de papier, les premières feuilles de papier font 12 sur 19 à peu près, et ils pliaient pour une raison précise aussi, c'est que dans ces feuilles de papier, puisque vous êtes sur le thème du baptême, le principe c'était de mettre dans la feuille de papier soit une pièce de monnaie, soit une médaille, et qui était donnée par la marraine en priorité dans un contexte protestant, mais les catholiques ont suivi la mode. Et ça s'est beaucoup développé au XIXe siècle.
Et ces gens avaient la conscience d'être des artistes, parce que vous dites ces artistes populaires. Non.
Non, ils n'avaient pas tant... Ils savaient qu'ils étaient capables d'exprimer le beau et de faire passer le beau en fonction de ce que demandait la famille. Mais le texte lui-même était en général écrit par le pasteur, puisque le pasteur vraiment maîtrisait bien l'écriture et la langue germanique, puisque la plupart de ces Kettelbriefs ont été écrits en allemand.
Est-ce que dans la communauté juive aussi, on faisait ce... Alors, peut-être pas le baptême, bien sûr, mais ce genre d'image qui était destinée, en fait, à être montrée à la génération suivante?
Oui, je pense que la mappa, c'est-à-dire le petit lange qui entourait le ventre du bébé au bout de 8 jours, marquait aussi son entrée dans la communauté juive. Et la maman pouvait après décorer la mappa. Et la mappa était cette pièce de tissu qui était après décorée avec même parfois des motifs patriotiques et qui était donnée après à la synagogue pour entourer le rouleau de la Torah. Donc c'était dès le début quelque chose qui était aussi décoré de manière symbolique.
Alors Catherine Kite, vous êtes guide hein, au musée de Pfaffenhoffen, hein, musée de l'image, et non oui. pas de l'imagerie, hein, de l'image.
De l'image.
Alors je sais que vous avez enseigné le français, le latin, le grec, mm-hmm. donc c'est très impressionnant.
Enfin, non,
c'est,
pas du tout.
quand même. Et est-ce que pour vous le passé, c'est la mythologie?
Le passé, pour moi, bien entendu qu'il y a une partie mythologique dans le passé. Mais le passé, pour moi, n'a de sens que si on en tire une leçon pour ce que nous vivons maintenant. Donc, emmener les gens à la synagogue, puisque nous avons aussi une synagogue très, très ancienne, c'est, paraît-il, la plus ancienne d'Alsace
oui.
puisqu'elle date de 1791, les emmener là, pour moi, ou les piloter dans le musée en leur montrant les différentes étapes de la vie qui ont été marquées par cette image populaire, pour moi, c'est une manière de les faire réfléchir aux constantes qu'il y a dans notre culture et à la nécessité d'être ouvert aux autres.
Alors, notre thème dans cette émission, vous l'avez bien connu, le temps perdu, bien sûr,
oui.
Proust.
Oui.
Mais ça veut dire aussi, pour vous, par exemple, c'est l'Iliade et l'Odyssée qui s'appliqueraient au XXe et au XXIe siècle, aujourd'hui.
Mais il y a des thèmes dans la mythologie qu'on retrouve,
oui.
qui sont constants. Pas uniquement l'Iliade et l'Odyssée. Mais moi, je crois que si on prend les grands mythes fondateurs de la Grèce, c'est une manière d'expliquer aussi les sentiments humains. Si Ulysse, par exemple, quitte de vue son équipage parce qu'il est en vue de, il est en vue d'Ithaque et il perd alors complètement la notion de surveillance, il va déclencher auprès de ses marins l'avarice, la cupidité, et il pense que dans le sac qui est sur le bateau, c'est en fait un trésor qu'Ulysse a reçu du dieu Éole et qu'Ulysse ne veut pas le leur partager. Donc par cupidité, ils vont ouvrir ce sac et ils vont déclencher la tempête des vents qui va les embarquer pour 9 ans et finalement la mort, puisque la il n'y aura qu'Ulysse qui pourra revenir. Donc, c'est en fait une manière de montrer que de manière constante, on retrouve ces défauts de l'humanité et que finalement, un homme est guidé par le destin. Il ne peut pas lutter contre son destin.
Il ne peut pas décider lui-même de sa destinée quand il se fait attacher au mât de son bateau pour résister à l'appel des sirènes.
Sirènes, oui.
Ce n'est pas son destin, il est maître de lui-même.
Oui, là oui. Mais son destin est quand même de ne pas pouvoir entrer immédiatement chez Pénélope.
Oui.
Donc,
et chez son chien.
Et chez Argo, son chien. En fait, c'est surprenant, on voit aussi que, par exemple, la déesse Thétis de la mer, elle ne peut rien faire pour empêcher le destin de son fils Achille. Elle a un fils qui est quand même le fils d'un mortel, elle est déesse, elle essaie de faire ce qu'elle peut pour protéger ce fils, mais elle le plonge même dans les eaux des enfers pour le protéger, le rendre invincible, et puis ça ne marche pas.
Catherine Kite, est-ce que cette conscience ou cette connaissance de la mythologie grecque, on l'avait dans les campagnes grâce à des professeurs peut-être érudits, les pasteurs, les curés, ou est-ce que c'était quelque chose qui était vraiment réservé à une élite? Et est-ce qu'on en trouve des traces au musée de Pfaffenhoffen?
De la mythologie grecque, non, pas directement. On a des rituels qui sont propres à la culture populaire, mais la mythologie grecque, on ne la retrouve pas directement. En tout cas, pas dans les textes et les images dont nous disposons.
Alors, décrivons un petit peu ce que l'on voit dans le musée de cette culture spontanée, donc, si je comprends bien. Mais, en même temps, quand même, il y a toujours des références au passé.
Oui. Ah oui. Oui. Donc, ce qui est constant dans la première image dont nous disposons, c'est l'image de la lettre de baptême. Et cette lettre de baptême, elle se fonde sur une tradition, puisque finalement le baptême revient à une cérémonie qui remonte à l'Antiquité. Et on sait bien que l'enfant doit être baptisé par l'eau. Et ça, à la limite, on ne retrouve pas une description précise du baptême lui-même. Par contre, on a tout un message autour de l'enfant qui se retrouve dans ces lettres. Donc, il va y avoir le principe du cœur, il va y avoir les anges, qui sont une transition entre le monde de Dieu et l'enfant. Il va y avoir des fleurs propres à ce que les gens voient constamment, des myosotis pour les souvenirs, les pensées, les roses. Mais la référence directe à une tradition va s'inscrire dans l'usage de ces symboles.
Et les gens qui usent de ces symboles ont-ils conscience qu'ils vont passer à la postérité? C'est-à-dire qu'on le transmettra automatiquement aux enfants, aux petits-enfants?
Ah oui.
Oui.
Ah oui, oui, oui. La lettre de baptême, elle est au départ non pas conçue pour être exposée. Elle est conçue pour être mise dans une petite armoire de coin qui se trouve dans la stoupe de la maison alsacienne et avec la Bible. Et cette lettre, elle est pliée, contenant cette fameuse petite pièce de monnaie. Mais la pièce de monnaie, elle restera vraiment propre à l'enfant qui reçoit cette pièce de monnaie. Donc, la conscience de pouvoir montrer après à ses enfants qu'il y a eu cette première cérémonie et que bébé, même s'il ne pouvait pas encore dire qu'il entrait, lui, dans la communauté chrétienne, il y avait quelque chose qui marquait cette appartenance, ben ça se transmet de génération en génération.
Oui. Et c'est une transmission qui existe dans toutes les communautés religieuses.
Ben, la transmission se fait... Finalement, les catholiques vont trouver que c'était tout à fait quelque chose d'important. Ils vont prendre cette même tradition. Et finalement, la MAPA, elle va aussi être transmise, puisque quand on ouvre à Pfaffenhoffen l'armoire, l'Arona Kodesh, où il y a les rouleaux de la Torah, on voit que les MAPA entourent toujours les rouleaux de la Torah. Et que... Finalement, le rabbin, quand il décédait, il emportait les mappas avec lui, dans notre communauté. Donc, cette tradition de l'image marquant l'entrée dans la communauté religieuse et devant continuer à travers les âges, donc essayer d'atteindre une sorte d'éternité, on la retrouve.
Mais alors, c'est aussi lié au nom de famille qui se transmet, donc le nom du père.
Père, oui.
Oui, pourtant dans la communauté juive, je crois que c'est seulement à partir de 1791, après la Révolution, lorsque les Juifs ont eu le statut de citoyen à part entière, qu'ils ont dû choisir des noms de famille pour s'identifier.
C'est très précisément à partir d'un édit formulé par Napoléon Ier, en 1808, qui voulait absolument que les Juifs aient un nom. Donc, ils ont pris des noms qui leur disaient quelque chose. Donc, Weiss, Roth, ils ont pris des noms qui donnaient une image en même temps que le nom.
Au lieu de s'appeler simplement fils de.
Fils de, voilà.
Voilà, c'est ça.
Oui.
Voilà. Et on trouve cette transmission aussi peut-être dans les images, alors plus tard, au XXe siècle, de la photo du mort que l'on conserve dans son missel.
Oui, hein? Oui.
Ça, c'est quelque chose... Et alors, c'est pour qu'on pleure quand on va à une cérémonie religieuse où on s'ennuie en écoutant le curé et on regarde les photos
Je pense que c'est en fait pour garder le souvenir. Le principe, si vous regardez même les images que nous avons, qui sont des images liées à un rite funéraire, où on voit la tombe, les saules pleureurs, les myosotis, et finalement la montée vers l'espérance en la vie éternelle, tout ça, c'est quand même fait pour donner un espoir, pour être tourné vers un espoir.
Oui.
Et donc l'idée que on n'oublie pas, le souvenir doit se perpétuer, on n'oublie pas. Je ne pense pas que l'image du mort soit uniquement une image sinistre. Je crois que, bon, bien entendu, souvent, l'imprimé est noir, la photo est en noir et blanc.
Elle est bordée de noir.
Elle est bordée de noir, enfin, c'est
oui.
clair c'est... que l'aspect du deuil est prédominant.
Oui.
Prédominant, pardon. Mais il y a aussi l'idée que le souvenir va se perpétuer. Mmh. Moi, j'ai retrouvé de ces images-là dans le missel de ma belle-mère. Et sur le coup, je ne connaissais pas cette personne, mais je sais le rapport qu'elle avait avec la famille.
Oui, c'est une façon de mieux connaître.
Oui.
Voilà. Parce que j'ai un souvenir d'enfance, lorsque l'on recevait une lettre, une enveloppe bordée de noir...
Ah oui.
Le facteur savait qu'il ne fallait pas la mettre dans la boîte aux lettres. Il montait l'étage du HLM et il toquait à la porte.
Oui.
Il donnait la lettre et il attendait que maman ouvre la lettre et qu'il dise « Oh mon Dieu !» Il fallait qu'elle court à la poste parce que c'est le seul endroit où il y avait un téléphone pour appeler.
Pour appeler,
et le facteur disait « Bon, je garde des enfants.
» Ah bon ?
Non, bon, voilà.
Oui.
Mais c'était... Et alors, on portait un crêpe noir... sur la manche et donc on savait que pendant la cour de récré on devait pas faire les imbéciles parce qu'on était en deuil,
oui.
Le deuil, voilà. Mais alors je sais que il y a d'autres étapes dans la vie avant le deuil, entre le baptême,
oui.
Et le deuil, bon, il y a le mariage,
il y a
puis la conscription, enfin c'est le départ à l'armée.
Donc il y a avant, il y a la confirmation, puisque là l'enfant va lui-même, un peu comme pour la bas mitzvah juive, l'enfant va pouvoir décider lui-même de participer à cette communauté religieuse. Après, il y a le mariage, et là aussi, on a les mêmes images de fleurs qu'on retrouve. Mais, et puis, il y a la fameuse vie militaire. Et ça, c'est particulier jusqu'en 1870, puisque les garçons doivent être convoqués au chef-lieu de canton. Le sous-préfet tire un numéro au sort. S'il tire un numéro pair, tous les garçons qui tireront au sort un numéro pair partiront au service militaire.
Qui durait 7 ans.
7 ans. Et qui s'étendait sur l'an... Depuis 1830, on a quand même un empire assez vaste.
On allait au Tonkin,
voilà,
ou en Afrique.
Algérie, Afrique, Inde. Il y avait des comptoirs en Inde. Donc, pour les cadets de famille... Ça pouvait être une promotion sociale.
Oui, puisqu'ils ne risquaient pas, enfin, ils n'avaient pas l'espérance de pouvoir hériter de la ferme.
Non.
Enfin, quand vous avez passé 7 années au Tonkin et que vous retournez à Pfaffenhoffen, ça doit vous sembler
petit. Ça doit sembler
petit,
oui. Et puis surtout, il faut que vous retrouviez les bases de votre vie. Vous avez peut-être été fiancé. En 7 ans, cette jeune femme, il n'est pas sûr du tout qu'elle vous ait attendu. Et il y a aussi un autre phénomène qui est profondément injuste, c'est que si votre famille avait des moyens, elle pouvait vous acheter un remplaçant.
Voilà.
Donc, vous, qui aviez tiré le numéro qui faisait que vous deviez partir, ben vous étiez remplacé par quelqu'un qui était pauvre, qui avait peu... d'avenir dans le village et qui partait à votre place.
Oui, c'est le sujet de romans, enfin, Les Deux Mathildes ou Chant d'honneur, là, le film de Denis qui raconte comment un fils de paysan, pour avoir un peu d'argent, remplace le fils du bourgeois qui ne veut pas partir faire son service. Quoi.
Et puis vous avez une petite nouvelle des d'Erckmann Chatrian, qui s'appelle le conscrit de 1814, et puis on le voit bien aussi que... 1804, pardon. On voit bien que là aussi, il aurait bien aimé être remplacé, et puis il a les pieds plats, il a tout ce qu'il faut pour rester à la maison, et non, on l'envoie. Et jusqu'en 14, il va faire la guerre.
Mais en même temps, ce n'était pas considéré comme quelque chose de déshonorant, en fait, de racheter...
Non, pas ça, du tout. Non. C'est notre vision à nous qui faisons qu'on a une vision un peu égalitaire de la fortune et on se dit, égalité, tout le monde devrait avoir les mêmes risques, les mêmes... et surtout, lorsqu'il s'agit de défendre sa patrie, on devrait être à égalité. Mais à l'époque, c'était parfaitement admis. Ça ne choquait personne.
Est-ce qu'on aurait envie de revenir dans cette époque du passé?
Là,
je ne pense pas. Là.
Non.
À là, l'époque
je ne
pense de MeToo et de... Ça vous fait rire.
Oui, oui. Ah oui, oui,
oui,
oui, oui,
oui. Oui, non, mais c'est quand même la preuve que notre société évolue de façon au moins égalitaire.
Oui. Hein, voilà. Moins cruelle, finalement,
moins
pour
cruelle.
L'individu.
Voilà.
Oui.
Et les fameux 3K, Kirsch, Kusch, Kindern, bon, c'est...
Ça appartient au passé.
C'est révolu,
un petit
peu, oui. Alors, Catherine Keith, j'ai lu que vous aviez écrit quelque part que ce sont les reflets des joies et des peines de nos aïeux. Comment décrypter ces images? Quels indices montrent, par exemple, que cette image est le reflet d'un grand bonheur? C'est les petits anges et les fleurs?
Ce sont les fleurs.
C'est les fleurs.
Les couronnes de fleurs marquent généralement le bonheur. Donc, chaque fleur individuelle, donc dans les unicas, quand il y a un seul modèle qui a été choisi pour une famille, une fleur unique a un symbole précis. Donc, mais lorsqu'elles sont à plusieurs, lorsqu'elles forment un bouquet ou une couronne, elles sont liées vraiment au bonheur et il y a aussi un aspect lié à la tendresse en même temps,
oui.
En général.
Alors c'est pour ça qu'on parle du langage des fleurs.
Oui, oui, oui.
Oui.
Mais finalement, même si on a l'impression que c'est moderne, les roses rouges qui correspondent à l'amour, en fait, on a déjà les roses blanches qui correspondent à la virginité de la Vierge. On a des roses rouges qui correspondent à ce que l'amoureux, dans les images d'amitié, puisque c'est l'homme qui crée ces images d'amour, ben, la rose rouge voulait dire quelque chose. Il ne savait pas forcément écrire, mais il faisait, enfin, il dessinait,
il exprimait
son amour à travers cette rose.
Est-ce que toutes les fleurs ont une signification comme ça? Le coquelicot, par exemple, fleurs les plus courantes dans nos campagnes.
Enfin, moi, je ne pourrais pas vous répondre sur le coquelicot, mais je sais que la tulipe, elle est très, très fréquente parce qu'elle représente, elle est stylisée avant l'époque romantique, elle est stylisée et là, elle véhicule un message lié à la Trinité.
Oui, parce qu'on dessinait les tulipes avec seulement 3 pétales.
C'est ça.
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
C'est ça.
Voilà.
Oui, oui.
Voilà.
Il y a l'espoir aussi. Ça représente à la fois la Trinité et l'espoir. Il y a les deux messages qui sont liés.
Il y a quand même beaucoup de naïveté dans tout cela.
Oui.
Alors, est-ce que populaire veut dire naïf? c'est pas un
question
piège.
Question difficile. Non, je ne pense pas que ce soit uniquement naïf, mais c'est qu'on va à l'essentiel des choses.
Oui.
Oui,
il y a une
pense.
Notion de patrimoine derrière cela?
Oui.
Oui,
oui, oui. Oui. Il y a
patrimoine
une notion de patrimoine culturel.
Consciente ou inconsciente?
Consciente, je
ah,
pense.
Oui.
Parce que la personne qui voulait avoir un souhait de baptême, elle s'adressait à quelqu'un qui était capable de reproduire ce souhait de baptême et elle attendait de celui qui allait dessiner un certain code. Donc, je pense que l'aspect culturel était quand même très conscient chez les gens.
Oui, et alors ce code, qui est une richesse, hein,
oui.
Bon, c'est la richesse du symbolisme, cette lecture du code, est-ce que c'était les parents qui la transmettaient, ou est-ce que c'était à l'école, ou est-ce que c'était le pasteur, le rabbin, le curé qui décryptait pour les enfants cette lecture?
Alors, la lecture se faisait par les parents et par le pasteur. Le pasteur était, ou le rabbin, lui, il était chargé de la partie purement interprétation de l'écriture. L'interprétation de la symbolique marquée par les fleurs se traduisait par les parents, le parrain, la marraine. Eh ben, c'était au niveau familial.
Donc, il faut venir à Pfaffenhoffen en famille.
Ah oui, je vous conseille de venir en famille.
Voilà. Eh ben, écoutez, c'est merci beaucoup, Catherine Keith.
Mais je vous en prie.
La guide bénévole. Alors, j'aime bien parce que vous insistez beaucoup sur ce...
Oui.
Mais bénévole, ça ne veut pas dire parce que vous n'avez pas, on ne vous donne pas d'argent. Ça veut dire que c'est parce que c'est par enthousiasme que vous le faites.
Nous le faisons avec passion.
Avec passion et érudition, où ça rime, mais quand même, non, c'est vrai. J'ai été subjugué, je suis venu il y a quelques semaines à visiter, c'est comme ça que je vous ai rencontré. Franchement, c'était formidable. Donc, le musée de l'image à Pfaffenhoffen, c'était l'épisode numéro 76 de « Vous l'avez bien connu ?» Le baptême perpétuel de Catherine Keith à Pfaffenhoffen. Vous l'avez bien connu, une émission sur Radio Judaïka à Strasbourg tous les mardis à 11h30, rediffusion à midi, à la technique Thomas Marinelli. Et mon nom est Ambroise Perrin.